André Lichtenberger, l'idylle du J.J. Tarot. À Londres, South Kensington, un grand bâtiment presque neuf. Le genre d'une banque ou d'un club. Un bureau élégant, au mobilier sobre et confortable. Un homme aux tempes grisonnantes, au visage énergique, aux yeux clairs, est assis devant un vaste bureau d'acajou. Devant lui est placée une enveloppe jaune avec des cachets. Au mur, des trophées de chasse et des gravures de sport. Sur la cheminée, une coupe de golf en argent, hideuse et massive. En somme, le studio d'un homme du monde oisif ou d'un homme d'affaires élégant. Il lève la tête. Un autre homme est introduit. Un peu plus jeune, type analogue, avec ce grain de déférence qui s'y est insubordonné en passe de devenir un égal. Il se présente. « Vous m'avez demandé, sir ?» Le chef lève les yeux, a un signe de tête amical au nouveau venu et lui tend une cigarette. « Oh, Adam, c'est heureux de vous voir. Voici, urgent, une mission de confiance pour Singapour. » Oui, il se plie. Il renferme toute la documentation, photographique et autres, rassemblée par nous sur les préparatifs de la révolte en Birmanie. Soyons justes, un pli de malice dessine au coin de la bouche mince. Son Excellence m'a fait comprendre qu'une partie importante de ces informations nous ont été transmises par nos amis français. Oui, je montrerai en ce cas, sinon plus de vaillance, au moins plus de perspicacité que nos propres agents. Quoi qu'il en soit, il importe que tout cela soit remis en main propre à qui vous savez. Pour des raisons qui ne concernent ni vous ni moi, le gouvernement préfère, au lieu de s'en tenir à la voie ordinaire, recourir à notre obligeance. Et je suppose qu'il peut y avoir des difficultés, un danger peut-être, à exécuter cette commission. Il y va non seulement de l'intérêt de notre pays, mais de l'honneur de notre corps de répondre à cette confiance. J'ai déjà des raisons de croire au surplus que déjà nous sommes filés. Prenez vos mesures en conséquence. Le jeune homme s'incline. Oh, votre honneur peut être assuré. La main soignée lui tend le pli. Voilà. Et puis, regardant le « Ah, rien de nouveau, ben, je vais jusqu'au... je serai de retour après le lunch. Venez prendre le thé pour me rendre compte. » Ayant enfermé le pli dans une poche intérieure, le jeune homme gagne l'antichambre, dégringole l'escalier. Sur le palier du premier, il manque de choir sous la poussée de l'individu pressé qui débouche à l'improviste d'un corridor, s'excuse, veut le soutenir. Il leur répond « Non, 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 pas de mal !» Devant la porte, un taxi qui rôde fait halte. Sur le siège, un conducteur au visage olivâtre sourit au client, lui ouvre la porte. « Non, merci, je préfère marcher. » Toutefois, à peine tourné le coin de la rue et évincé les offres d'une bouquetière, une sorte de gitane qui tente de s'accrocher à ses basques, il fait signe à une autre voiture. Waterloo Station. Arrivé, il descend, traverse la gare, ressort par la porte du sud, et après s'être assuré qu'il n'est pas suivi, donne son adresse à un deuxième véhicule. Il s'y engouffre, satisfait d'avoir dépisté l'ennemi. Mais il est évident qu'il veille. L'affaire est sérieuse. Il s'agit de bien choisir la personne et le moyen de transport. Jetant au plafond la fumée de sa cigarette, Adam se réfléchit quelques minutes, consulte un indicateur des lignes de navigation. Un doigt sur un bouton téléphonique, une sonnerie. « Miss Maisie, voulez-vous descendre une minute ?» La jeune fille apparaît. Une blonde, rose et souriante, un tantinet peinturluré, pas trop, ce qu'il faut. Au premier coup d'œil, cette poupée gracieuse, genre mannequin. Toutefois, la bouche d'un dessin singulièrement ferme, l'œil attentif. Miss Maisie, vous plairait-il d'aller faire un tour en Extrême-Orient? Elle a un rire perlé, rougit de plaisir comme à l'offre d'une sucrerie convoitée. Bon, je le pensais. Et aussitôt, la voix brève, le chef explique. Oui, voilà, une affaire sérieuse. Il y a des risques. Voici le pli qui est à remettre en main propre avec une lettre que j'y joindrai à notre bon ami de Singapour. Il vous donnera en échange des explications complémentaires, soit que vous vous demandions de vous revenir tout de suite, soit peut-être qu'il nous prenne fantaisie de vous envoyer faire une promenade jusqu'au Japon. Et, vérifiant les indications concernant les diverses lignes de navigation, bon, le mieux serait, je pense, vous parlez si bien le français, vous alliez vous embarquer sur un bateau de vos alliés, par exemple à Marseille. Je vois que le 9 part pour l'Extrême-Orient en steamer. What's the name? Le Gigi Taro. Prononcé J.J. Charles. Drôle de nom. Vous qui connaissez si bien les choses françaises, qui est-ce? Un navigateur célèbre? Peut-être un amiral? Bon, je ne pense pas, sir. Probablement plutôt le nom de l'armateur. C'est juste, vous savez tout. Alors demain, vous aurez l'argent et les papiers. Il tend deux doigts à la jeune fille. Bon voyage! Mission secrète. Les parages de la place Beauvau, ou peut-être de l'école militaire, dans un immense immeuble vétuste et micro-roulant, une espèce de galetas. On y accède par un escalier tortueux aux murs lépreux et aux marches déclives, un palier de couturière de quatrième classe ou d'avorteuse. Après avoir traversé deux pièces dont sa main levée toucherait le plafond, le jeune homme, 30 ans, plutôt joli garçon, l'œil vif et le geste prompt, suit un corridor dont les parois sont invisibles derrière les cartons empilés et les casiers débordants des paperasses, frappe à une porte, et une voix éraillée glapit: Entrez! Une pièce, plutôt d'un antre, où tout est sale, fumeux, gris, empoussiéré. Devant une table boiteuse, surchargée de dossiers, un drôle de bonhomme, en bras de chemise moisi et crotté, lève un nez aigu que surmonte un lorgnon suivi d'un cordon rapiécé. Ah, c'est vous, Joe Noir. Tâchez de trouver un coin à vous asseoir. Ça va bien chez vous? Allez, une minute. Ayant achevé de signer une demi-douzaine de lettres, que remporte d'une manière d'éphèbe mal ficelée, l'homme, il a les cheveux en broussailles et une barbiche et se ronge les ongles, vise son interlocuteur. Eh bien, Joe Noir, vous êtes prêt à partir. Voici votre titre de mission et toutes les instructions des huiles. Je crois que, prévenus par nuit, nos amis britanniques comprennent enfin, au yo-biltan, le danger qui menace en Indochine, la civilisation européenne tout entière. Et si mes informations sont exactes, ils envoient à leurs agents des instructions en conséquence. Toutefois, il est nécessaire que nous-mêmes complétions les nôtres à Saïgon sur toutes les menées communistes. Il y a des instructions à donner et à recevoir. Au risque de vous faire casser la gueule, j'aurais voulu vous expédier en avion, mais la République a besoin, par hasard, de faire des économies. Qui sait, ça sauvera votre peau. En somme, le Gigi Taro, appareil le 9, bah, débrouillez-vous. Oh, il n'est pas impossible que vous rencontriez à bord votre collègue britannique. Ne négligez pas de vous accoucher avec lui pour peu qu'il s'y prête. Pour une fois que par hasard nous sommes momentanément d'accord, autant ne pas jouer à cache-cache. Tout de même, un conseil, n'en tombez pas amoureux. C'est une très jolie fille. Je dois expressément à votre famille de vous mettre en garde. Méfiez-vous de ces moments de séduction. Bonne chance. Et le bonhomme, noyé dans les fumées de sa cigarette, gratte sa tignasse et se replonge parmi ses paperasses. Il s'agit d'assurer la sécurité d'une manifestation antimilitariste dans la circonscription d'un député qui pourrait être un jour de la majorité. À bord du Gigi Taro, l'élégant paquebot chevauche allègrement la houle lente. Le voyage s'est accompli sans difficulté. Mer clémente, passagers aimables, le steamer tient admirablement la mer. Alain Jaunois jouit en dilettante de l'aubaine. Allons, si le métier a des moments fâcheux, il comporte des diversions confortables. À son personnage officiel, oui, c'est un agent de premier ordre, il joint un tantinet de fantaisie, un grain de snobisme. Il est exquis, pendant quelques jours, de se prendre pour le privilégié d'une croisière de luxe. Aussi le policier n'a pas été fâché de voir sa belle humeur, sa politesse, ses gentilles façons appréciées sur le pont-promenade et au salon. Oh, s'il se défendait, il ne quitterait pas le bridge de la Générale que pour le dancing des petites pervenches internationales. Du côté homme, il n'est pas moins bien vu. Il a fructueusement interviewé plusieurs vieux indochinois qui ont abondamment documenté ce publiciste. C'est la qualité qu'il se donne. Par hasard, attentif, modeste et consciencieux, peut-être un tantinet naïf. Le colonel Desbois semble l'avoir vainement mis en garde contre les hableurs du bord qui ne manquent pas. Par exemple, n'attache pas une importance excessive aux propos d'une sorte de beau parleur au type levantin, aux yeux de peluche, aux gestes enveloppants, qui est embarqué à Suez et se donne pour un gentleman de Ceylan. Vous viendrez jouer avec moi au golf. Il semble exercer sur le français une fascination. Méfiez-vous, jeune homme. Et vous croyez, colonel, je vous remercie. En lui-même, Alain s'amuse. Le sieur Palmieri, dans le petit carnet secret qui ne quitte pas sa poche intérieure, a sa fiche remplie tout au long. Et parmi les passagers, il n'y en a guère qu'un ou plutôt qu'une auprès de qui ont échoué tous ses empressements. À peine sorti du port de Marseille, Alain Jaunois avait vite fait d'identifier, parmi la foule élégante éparpillée sur le deck, sa collègue londonienne. Gentil, camarade, on pourra s'entendre. Ce sentiment fortifiant celui de son devoir professionnel, il avait immédiatement prié le commandant de l'introduire auprès de cette fringante voyageuse britannique qui s'en allait faire pour son agrément un tour à Singapour, comme d'autres de ses compatriotes vont à Biarritz. Et c'est avec une extrême mortification que le jeune homme a dû constater le médiocre résultat de cette ouverture. Miss Maisie, certes, lui prodiguait, comme à chacun, ses sourires, ses rougeurs et ses puériles exclamations. Mais à ses manœuvres, à l'effet d'établir sur un pied moins distant leur relation, elle avait opposé le plus inexprimable, la plus inimpénétrable des candeurs. En vain, outrepassant les instructions de son chef, il lui laissait entrevoir qu'à son titre de journaliste, il en joignait peut-être un autre. L'imperceptible tressaillement du visage rosé lui avait certifié qu'il était compris. Malgré cela, la jeune fille était demeurée aussi muette qu'une porte, répondant par des « Ah, des « Vraiment ?» des « Oh, vous croyez ?» gentiment miaulée à ses invités les plus significatives. Même un essai de flirt l'a laissée paisible, indifférente. Afro d'autant plus sensible qu'elle se montrait singulièrement moins distante vis-à-vis de tels autres, notamment ce fameux Palmieri dont le seul aspect eût dû irrémédiablement l'avertir. Avait-elle sur ce point des ordres de ses chefs ou sa prudence britannique la mettait-elle de principe en garde contre la destructible légende de la galanterie française? Le fait est que sa réserve demeurait inexpugnable. D'où chez le jeune homme un certain dépit. Il se manifesta par une affectation redoublée de gaieté nuancée de froideur. Mais la jolie fille a semblé aussi insensible à ce changement qu'à l'empressement des premiers jours. Ce matin, quand elle passe devant le jeune homme assis à côté de Palmieri, elle adresse au salut cérémonieux du français un sourire aussi parfaitement inexpressif que de coutume, tandis que lorsque le Levantin se lève et vient à elle, il recueille le plus avenant des sourires. « Oh, j'ai lu le livre que vous m'avez prêté !» Il cause quelques minutes. Quand elle s'éloigne et qu'il regagne sa place, le jeune homme ne peut s'empêcher de le féliciter d'un ton goguenard. « Mes compliments, alors ça marche, votre affaire ?» L'homme ricane, se tortille. « Bon, je vais demander à Miss Mezy s'il me serait agréable à son retour de s'arrêter dans mes terres pour chasser le tigre. Me ferait un plaisir. » Chasser le tigre? Heureux homme! Mais comment un pauvre diable de français lutterait-il contre de telles séductions? Il y a à bord du Jean-Jacques Tarot un certain nombre de serviteurs aux yeux bridés. Annamite, cambodgien, chinois, japonais, qui le dira au juste. Plusieurs sont attachés aux cabines des premières. Ce qu'ils pensent, ou qu'importe, l'essentiel c'est que leur service est satisfaisant. Aux curieux d'ethnographie de n'en demander davantage, s'il leur chaud. C'est, paraît-il, le cas de M. Palmieri. Mais oui, il s'intéresse passionnément aux problèmes de race, connaît presque tous les idiomes d'Extrême-Orient. Aussi prend-il son plaisir, quand il les rencontre, à échanger quelques mots avec ces braves gens, voire à provoquer leur confidence. Si vous saviez chez eux quel mélange de finesse et de naïveté! Si quelque oreille attentive surprenait les propos qu'il échange avec ces simples, peut-être y aurait-il quelque étonnement de leur incohérence. Alors, Li, ta famille habite Shanghai? Oh, c'est une belle ville. Tu as eu récemment des nouvelles? Non. Eh bien, le grand A du 22 pourra t'en donner. Oui, le grand A du 22. Ah, tu vas revoir là-bas, ta vieille maman. Manque pas de lui faire mes amitiés. Oui, tu trouveras chez elle les ressentiments qu'il faut pour détruire la vermine. Oh oui, ces rats sont insupportables, les moustiques davantage. Me plaindrai au commissaire. Ah oui, je te serai obligé de me montrer les colliers de coquillages dont tu me parles. Il manque encore des pièces curieuses. Oh, je donnerai beaucoup pour les avoir, des coraux aussi. Vous le voyez, monsieur le français, on ne se lasse pas de causer profitablement avec ces braves gens. Ils connaissent mes manies, n'épargnent rien pour les satisfaire. La ruse de Mezy. Après réflexion, Mezy a tout bonnement placé l'enveloppe officielle dans le tiroir supérieur de gauche de son secrétaire sous quelques mouchoirs de poche. Principe bien connu, la cachette la plus simple et la meilleure. Il est vraisemblable, au surplus, que son départ de France à dérouter l'adversaire. Faut néanmoins se méfier. Rien qui stimule la curiosité comme la complication. Au contraire, qui soupçonnerait parmi les babioles de toilette la présence d'un document dont dépend peut-être la vie de milliers d'hommes. Les instructions du service commandent de contrôler quotidiennement l'état de choses. Miss Maisie ne manque pas, matin et soir. Pendant les 15 premiers jours, rien de suspect. C'est 48 heures après l'escale de Colombo qu'elle a cru remarquer que l'on avait touché à la précieuse enveloppe. Quelques grains de poussière, repères invisibles, ont été déplacés. Un hasard peut-être. Le lendemain, rien de nouveau. Oh, le surlendemain, pas d'erreur, des doigts ont touché et palpé le document. Une inquisition s'exerce. Et pourquoi tout de suite la silhouette de M. Palmieri aux yeux de velours S'appose-t-elle à la jeune fille? Elle réfléchit, ses sourcils se froncent et se détendent. En un instant, la décision est prise. Sur le pont arrière, Alain Jaunoir fume une cigarette, regarde les mouettes se poursuivre au-dessus des flots de pourpre dans le soleil couchant. Voici qu'une main légère se pose sur son bras. Il se retourne et ne retient pas un geste de surprise. « Vous, mademoiselle, mais quelle bonne fortune !» La jeune fille sourit, minaude, gentiment. « Oh, monsieur, oh, si je ne craignais pas d'être indiscrète, je voudrais vous demander un service de confiance. »«
Un service? Oui, ça vous étonne? Oh, peut-être un peu. Vous m'avez pas habitué jusqu'ici. J'aurais pensé que peut-être ce cher monsieur Palmieri serait plus indiqué. »
L'anglaise rougit de plus belle. Elle a l'air si intimidée. Alain Jaunoir se ravise. « Alors, je ne veux pas vous taquiner. Vous me voyez à vos ordres. De quoi s'agit-il ? » ?»«
Eh bien, voici. Miss Maisie, comment dire, est chargée d'une mission pour une amie mariée qui habite Singapour. Jadis, comme jeune fille, elle a eu la folie d'échanger quelques lettres un peu légères avec un jeune homme. Oh, rien de coupable, vous pensez bien, mais son mari est très strict. » Alors si ces pièces tombaient sous ses yeux, ce serait peut-être la fin de leur bonheur, vous comprenez?
Tu parles, oh, pardon, parfaitement. Eh bien,
ces lettres, on me les a confiées pour les lui remettre. Je les ai dans mon secrétaire. À certains indices, j'ai compris qu'on avait touché l'enveloppe qui les contient. Alors j'ai peur qu'avant d'arriver à l'esclave, on me les dérobe. Ce serait affreux. Avec ces boys, est-ce qu'on sait? C'est pourquoi je viens faire appel à votre complaisance. Voulez-vous les conserver sous votre garde jusqu'à l'arrivée? L'honneur de deux femmes, le sien et le mien, en dépendent. Acceptez-vous?
Un mélange de sympathie et d'impatience pince les lèvres du jeune homme. La ruse en vérité est enfantine. Mais ne voudrait-il pas mieux s'expliquer tout simplement? Mais le regard est si pur, si appétissante la jeune fille. Mais comment donc, mademoiselle, je suis à vos ordres.
Ah, vous voulez?
Miss Maisie bat des mains.
Well, que vous êtes gentil. Allez à votre cabine, je vous apporte tout de suite cette chose.
Le jeune homme s'en va en sifflotant, rentre chez lui, escorté par le sourire du boy en amite qui lui ouvre la porte. Oh, il n'a pas longtemps à attendre. Voici la visiteuse un peu essoufflée. Il ouvre son armoire, tire un tiroir. Voilà, voulez-vous vous-même y déposer votre pli? Vous viendrez le reprendre.
Oh, many thanks.
Elle se laisse baiser le bout des doigts et se sauve. « Allons, c'est pas mal joué. » Avec ces galants français, une jolie fille peut toujours se tirer d'affaire. Quand Maisie est sortie, le jeune homme examine l'enveloppe attentivement, la soupèse à un sourire. Il écoute un instant à la porte, l'ouvre brusquement. Le boy est là, visiblement, il y avait l'oreille. « Tu vas aller tout de suite acheter une cigarette ?» Le bonhomme jaune file et revient. Bon, et maintenant, n'est-ce pas, qu'on me fiche la paix jusqu'au dîner. Il dispose à une patère un pardessus qui bouche la fente de la porte et la serrure et se met à l'ouvrage. Ah, qu'il y a de grâce un peu mélancolique dans la fin d'une croisière sur ces mers enchanteresses. Au départ, on a gaspillé son bonheur. Entre passagers, il y avait des réserves, des morgues, des défiances. Et peu à peu, tout cela s'est transformé. Des antipathies se sont affirmées, des affinités se sont découvertes. Mille petites aventures ont créé des rapprochements. Après 15 jours de traversée commune, on se connaît mieux qu'après 10 ans d'existence dans la même petite ville, enfoncée ou dans le brouhaha anonyme de Paris.
À bord du Gigi Tao, la famille X s'est réveillée, s'est vérifiée une liaison insoupçonnée avec les Z. Le grand Anglais a combattu sur le front de France à côté du capitaine de chasseurs à pied. La chanteuse, qui est en route pour Yokohama, ne manquera pas, sur les prières du négociant de Saïgon, de s'y arrêter au retour. Et entre la petite Anglaise et le journaliste français, longtemps distant, quel changement d'attitude! Volontiers, Alain Janois plaisante sa jolie compagne. Dites-moi, savez-vous, vous n'avez pas été bien aimable pour moi? Elle s'excuse. C'est que vous autres Français, vous savez, vous êtes si enjôleurs, si dangereux, mais je suis bien touché de votre dévouement chevaleresque. Oh, c'était donc une chose si grave, oh, si grave! Et avec une gaucherie ingénue, elle invente tout un petit roman maladroit et compliqué. Le policier l'écoute avec amusement. C'est tout à fait divertissant, un peu irritant aussi, de la regarder mentir. Comment le grand service qu'il emploie peut-il trouver son compte à des agents aussi naïfs? Au fait, n'est-ce peut-être pas l'habileté suprême? Ah, vous savez, on a de nouveau fouillé tous mes tiroirs. Quand je me figure le danger que j'ai couru, oh, je veux dire le danger qu'a couru mon ami. Oh, Dieu, sœur, comme je vous suis reconnaissante! Le jeune homme s'incline avec componction. Au fait, malgré la comédie qu'il se joue, il y a chez tous deux un émoi sincère. Elle est réellement sensible à la gentillesse du français. Il est touché par contagion de l'effroi de la jeune fille. En somme, c'est pour tout de bon qu'ils sont en sympathie. Leurs mains s'effeuillent sur la rambarde. Elle retire la sienne et murmure. Oh, c'est demain à midi que nous arrivons, je crois, à Singapour. Alors, si vous permettez, je viendrai reprendre le petit paquet à 11 heures. Entendu. La jeune fille s'éloigne, légère. Aimable garçon, ce français, et si crédule malgré sa désinvolture. Et le jeune homme murmure de son côté. Après tout, elle est un peu rosse, mais comment lui en vouloir? Alain Jaunois joue un tour. Dans sa cabine, Jaunois est attablé, il écrit. Il a promis d'envoyer de ses nouvelles à chaque escale. Le navire a graduellement ralenti son allure. On entend un bruit de chaîne. On est en train de mouiller. Un doigt léger frappe à sa porte. Entrez! C'est bien, Miss Maisie, plus rose que jamais. Excusez-moi si je vous dérange, je viens chercher. Mais parfaitement! Et d'un tour de clé, le jeune homme ouvre l'armoire, lui indique le tiroir. « Oh, servez-vous vous-même !» L'enveloppe jaune est là où les mains de la jeune fille l'ont déposée. Elle la saisit vivement. « Oh, comme mon ami va être soulagé tout à l'heure !»« Mais je n'en doute pas, mademoiselle. Merci encore !» Un dernier check-end. « Je garderai un souvenir si reconnaissant. » Elle va fourrer la lettre dans son sac à main. Mais, soudain, la parcourant d'un dernier regard, elle pousse une exclamation. « God bless me, ce n'est pas elle !» Le jeune homme se dresse, les sourcils froncés. « Comment, mademoiselle, que voulez-vous dire? Vous-même venez de reprendre cette enveloppe à l'endroit. » Elle bégaye. « Mais ce n'est pas celle que je vous ai confiée ?» Elle se tord les mains. « Oh, monsieur, je ne mets pas en doute. Vous avez été volé comme je l'aurais été. Il y avait sur le papier certains signes. Oh, je suis perdu, déshonoré. Le gouvernement britannique. » Les jambes de la malheureuse flagellent. Sur les traits du jeune homme, une expression de malice a vite fait place à la commisération. « Rassurez-vous, Miss Maisie, dit-il. « Si vous m'aviez montré un peu plus de confiance, je vous aurais épargné cet émoi. Soyez sûr que l'enveloppe que ce gredin de Palmieri a fait dérober dans ce tiroir contient des renseignements exactement aussi précieux que ceux que renferme celle-ci. Et d'un goût de canif, il ouvre le pli, éparpille sur la table quelques fragments de journaux, puis il poursuit. Quant au dossier que vous a confié votre gouvernement, si vous voulez m'accompagner, cher collègue, nous allons le chercher ensemble chez le commandant, qui, sur ma prière, l'a serré dans son coffre-fort avec mes propres papiers d'affaires. Me sachant ainsi surveillé que vous-même, je n'eusse voulu pour rien au monde conserver dans ma cabine un document d'importance. Entre parenthèses, vous voudrez bien vérifier. Peut-être mes chefs me blâmeraient de cette discrétion excessive que le document est resté rigoureusement intact. J'y ai mis quelques coquetteries. Après une escale de quelques heures dans le grouillement de Singapour, le Jijitaro apparaît au commencement de la soirée. Invinciblement éreinté par sa vadrouille épuisante à travers l'étrange carrefour cosmopolite, Alain Jaunois se détend mollement sur une chaise longue sous le flamboiement des lieux. Parmi les sensations de la journée, ses pensées se reportent vers la jeune fille anglaise qui, ce matin, a débarqué. Une dame britannique d'aspect correct est venue la chercher à bord. Maintenant qu'il s'est revanché de ses méfiances, il ne demeure en lui vis-à-vis d'elle qu'un mélange assez particulier de sympathie et d'admiration, de pitié et de remords. Sympathie pour son charme, admiration pour sa vaillance, pitié pour les risques auxquels l'expose son dur métier, report d'avoir alourdi par un esprit de malice en son mesquin la tâche qui pèse sur ses frêles épaules. Il n'y a pas à dire, cette gracieuse compagne lui manquera plus que le sieur Palmieri, qui, bien que son billet fût pris pour Saïgon, n'a pas rembarqué tout à l'heure, de crainte sans doute de subir le sort de 6 serviteurs indigènes qui sont aux arrêts. Le jeune homme rêve. Et quel n'est pas son étonnement quand soudain retentit une voix cristalline dont il ne saurait méconnaître l'accent. « Bonjour, monsieur Renoir. J'espère que vous avez fait une bonne promenade. »« Miss Maisie ! Mais faut-il en croire ses yeux et ses oreilles ?»« Miss Maisie, qui devait rester à Singapour et qui est de nouveau à bord. » Mais que s'est-il passé? Mais quel nouveau mystère! Mais il se gardera bien d'interroger. Il répond paisiblement, « Oh, excellente, merci. Et vous, pareillement, j'espère. » « Pareillement ?» La jeune fille s'est assise à un bref silence. Puis elle reprend, « Oh, quelle belle soirée !» Il répond d'un ton convaincu, une magnifique soirée, indeed. Nouveau silence, et puis interrogation. Vous n'êtes pas surpris de me voir encore ici? Oh si, très surpris. Et comment interprétez-vous ça? Oh, je suppose que votre cousine ou une autre parente doit avoir d'autres lettres compromettantes à lui rapporter du côté du Japon. À votre disposition. La jeune fille sourit. « Vous êtes toujours fâchée contre moi ?» Et d'un ton enjoué, « Voilà, les lettres que j'ai remises étaient si importantes qu'on a pensé que certaines devraient être communiquées d'urgence à d'autres amis que nous avons à Shanghai. Voilà ce qui me donne le plaisir de voyager encore avec vous et de vous redire ma reconnaissance. » Il y a un petit tremblement dans la voix. Une main blanche se tend. Touché, le jeune homme la secoue d'une étreinte cordiale. « Mais je suis ravi, mademoiselle, d'une si heureuse aubaine. » Dans les jours qui suivent, le resserrement du flirt entre les jeunes gens fait l'objet de tous les commentaires. Sur la proposition de la voyageuse, non seulement ils arpentent ensemble le deck, mais prennent leur repas à la même table. En vérité, ils vont d'un peu fort. D'un journaliste français, rien n'étonne, mais Voyez comment se dégèlent les pudeurs britanniques. Peut-être qu'il arrive au policier lui-même d'être surpris du besoin d'expansion de sa compagne. Sans aucune sollicitation de sa part, il est maintenant au courant de sa vie isolée. Orpheline de bonne heure, il lui a fallu subvenir à l'éducation d'une sœur plus jeune. Elle a eu à soutenir une grand-mère tombée en enfance. Elle était bien heureuse de l'occasion qui s'est offerte d'entrer dans le service du gouvernement, mais il est dur. Pourra-t-elle tenir à la longue? Les collègues sont corrects, distants. Il le faut, mais on se sent terriblement seul. Comprenez-vous pourquoi, cher monsieur, je me suis d'abord tellement placé sur la réserve? Et peut-être maintenant pas assez, c'est que j'ai été si touché de votre bonté. Le jeune homme riposte. Oh, j'aurais fait de même pour tout le monde. Bien sûr, exactement. N'y a-t-il pas là une innocente coquetterie dans le cou flexible, joliment penché? Le jeune homme a un chemange-tête. Oh, évidemment, on est plus heureux de rendre service à une jeune fille délicieuse qu'à un clergyman. Elle a un rire argentin, frappe doucement sur le bras de son voisin. Fido, d'abord je ne suis pas si jolie. Oh, mais si, et davantage, vous le savez. Le dernier fin de l'idylle. Le dernier soir, à dîner, Alan Jaunois offre le champagne. On dirait que sa compagne pétille comme le vin mousseux. Elle confesse sa prédilection pour les crus de France. Et j'espère pour les confrères français. Elle rougit légèrement. Oh, peut-être pas pour tous, mais évidemment, il y en a un au moins. Prenez garde, vous m'avez dit l'autre jour qu'il était impossible de se comprendre exactement entre gens de diverses races, de divers pays. C'est vrai, en règle générale, mais il y a des exceptions. Tenez, l'un de mes plus sympathiques collègues a épousé une Italienne. C'est le plus charmant des ménages que je connaisse, une tendresse si vraie, si affranchie du cant britannique. Alain Jaunois se lève. Oh, je vais tard. Nous allons prendre quelque chose au bar. Croyez-vous? Il pénètre dans la pièce. Whisky and soda. Oh, je ne vous tiendrai pas compagnie longtemps, Miss Maisie. Il faut que je termine ce soir une lettre pour ma famille afin de la mettre tout de suite au bateau à Saigon. Oh, comme c'est gentil, comme c'est français. Je parie que c'est à une chère vieille maman que vous écrivez. Mais non, Miss Maisie, c'est à ma femme et aussi à ma fillette. Oh, j'ai oublié de vous les présenter. Les voici. Il tire son portefeuille, en extrait une photo et la lui tend. Une gracieuse jeune femme y sourit avec à côté d'elle une fillette de 4 ans. Elle s'appelle Jacqueline. Oh, combien délicieuse! Est-ce une illusion? Mais il semble au jeune homme que sa compagne a légèrement pâli. Une seconde de silence. Les verres sont vides. Et puis une voix incertaine murmure. Well, c'est, je pense, l'heure d'aller nous reposer. Il regagne le pont en quelques pas. Voici l'escalier. Le jeune homme s'efface pour laisser passer l'anglaise devant lui. Alors elle s'arrête, plante tout droit ses yeux bleus dans les siens, un sourire mi-moqueur, mi-tendre, et brusquement, deux lèvres se posent sur les siennes et puis s'en détachent. Pour Miss Jacqueline! En un instant, la silhouette a disparu. Et malgré ses efforts, Alan Jaunois ne reverra pas la jeune fille avant le débarquement et ne se rencontreront jamais plus sur la terre. Fini. André Lichtenberger.